Europa Voice numéro 61. Et aujourd'hui, je suis comme d'habitude, comme les 60 autres épisodes jusqu'à présent, avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
Alors, 61, on va parler Brexit, un sujet que j'apprécie très fortement. Vous le savez, à quatrième round de négociation, c'est aussi le dernier round de négociation, c'est-à-dire que les choses deviennent très sérieuses.
Alors, effectivement, Christophe, c'est le quatrième et en principe, dernier round de négociation sur le Brexit entre l'Union européenne et Londres, avant une date butoir, celle du 30 juin, parce que le 30 juin, c'est la date à laquelle, normalement, les deux parties peuvent encore s'entendre sur une éventuelle prolongation des discussions au-delà du 31 décembre. Parce qu'on a deux dates butoirs, en fait, si vous voulez, Christophe. On a le 31 décembre, qui est normalement la fin de cette année de transition, mais on a ce 30 juin si les deux parties veulent une extension de cette date butoir de l'année de transition. Donc, effectivement, semaine, mois de juin, à extrême et haute tension pour les négociations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sur le Brexit.
Alors, ce qui est important de savoir, c'est que on est vraiment au bout d'un chemin. On a parlé, ça fait un petit moment qu'on parle de ce Brexit. Les hommes sont toujours les mêmes. Les personnes autour de ces négociations sont toujours les mêmes. Il y a toujours Boris Johnson et bien sûr Michel Barnier. Et on ne peut pas dire que c'est des atomes crochus.
Non, Christophe. Alors, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que Michel Barnier, pour un politique, n'use pas tellement la langue de bois quand il qualifie les négociations en cours du Brexit. Je vais prendre juste une citation de ce dernier. Il a déclaré, notamment à propos de ce qu'on appelle le « level playing field », hein, c'est, si vous voulez, l'alignement réglementaire maximal. Hein, c'est un point extrêmement important de ces accords entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Il a déclaré « les Britanniques voudraient une sorte de best-of et même plus, ils voudraient des accords commerciaux que nous avons conclus avec d'autres pays. Ils voudraient le meilleur des mondes, en quelque sorte. J'appelle, donc Michel Barnier parle, à plus de réalisme. » Donc effectivement, Michel Barnier, c'est toujours le même négociateur. En face de lui, il y a David Frost, mais personne n'est dupe. Et pour l'instant, on voit assez mal, en fait, comment globalement on pourrait se diriger vers un accord. Alors, il faut savoir, Christophe, que dans cette semaine nouvelle de discussion là, qui s'ouvre en ce début juin, on a plus ou moins trois options qui se dessinent devant nous. Soit on décide de reporter les débats au-delà de la fin de l'année. Hein, c'est donc on a ce mois de juin pour se dire, allez, l'année de transition n'est pas suffisante, on va au-delà du 31 décembre 2020. Ça, c'est la première option. La deuxième option, Christophe, c'est que bon, on est réaliste et on va certainement vers un no deal parce qu'on n'arrive pas à s'entendre, parce que les positions sont trop divergentes. Et la troisième option, qui est évidemment celle qui devrait être souhaitée par tous, c'est de dégager les bases d'un accord pour que le Brexit se fasse et qu'on n'ait pas besoin ni d'un no deal, ni d'une extension de cette année de transition.
Est-ce que le coronavirus aura changé les choses ? Forcément dans les esprits, mais est-ce que dans ces négociations pures et dures, on peut dire que le coronavirus aura également un impact à ce niveau-là ?
Alors, c'est difficile à dire, Christophe, si le coronavirus, ou en tout cas dans quelle proportion le coronavirus a changé les choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à côté de la crise du coronavirus, Boris Johnson pourrait faire en sorte que le Brexit soit quelque chose d'extrêmement mineur. Parce qu'on l'a encore dit plusieurs fois, Boris Johnson, lui, la carte qu'il joue avec sa population, avec ses administrés, c'est la relance de l'économie de pays, c'est la sortie de crise. Donc, si vous voulez, le Premier ministre britannique a tout intérêt à faire en sorte que le coronavirus ait un impact, j'allais dire, maximal. C'est un peu cynique ce que je vais vous dire, pour que le Brexit, lui, paraisse mineur et qu'on parle d'autres choses et que lui puisse avancer sur d'autres dossiers.
Ok, pour le coronavirus, quels sont les points de divergence ? Parce que c'est clair que y a une rivière qui coule entre les deux. C'est pas simplement que la Manche, hein. Il y a un peu plus que la Manche qui coule entre tout ça, mais il y a vraiment des points de divergence clairs et précis entre les deux options et les deux visions de ce Brexit.
Oui, Christophe, alors les points de divergence, effectivement, il y en a entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, et c'est pour ça que ces négociations du Brexit prennent autant de temps. Si on veut un petit peu simplifier, résumer pour nos auditeurs d'Europa Voice et d'SBS, je dirais qu'il y a quatre points de divergence entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Le premier point de blocage, Christophe, c'est d'abord, encore une fois, on en revient à ce level playing field, c'est la définition de normes communes et d'un partenariat qu'on pourrait qualifier de juste et équitable qui est voulu par les Européens. Ce que redoutent, en fait, si vous voulez, Christophe, les Européens, c'est qu'une fois que le Royaume-Uni est devenu un concurrent. Il utilise son autonomie pour se livrer, et on l'avait vu et revu dans Europa Voice, c'est un dumping qui soit fiscal, qui soit social, qui soit réglementaire, et donc qu'en fait, il y ait des centaines de milliers d'emplois du marché unique européen qui se trouveraient en concurrence déloyale, injuste, avec des entreprises britanniques qui bénéficieraient davantage compétitives. Donc ça, c'est le premier point de blocage, c'est comment est-ce qu'on aligne les normes réglementaires pour pas qu'il y ait de distorsion de la concurrence, si vous voulez. Le deuxième point de blocage, Christophe, c'est la pêche. Alors, ça peut paraître très anecdotique, ça peut paraître mineur, mais on le sait, hein, avec la pêche, avec la PAC, l'agriculture, c'est des éléments extrêmement importants au sein de l'Union européenne, tout simplement parce que souvent, c'est des secteurs qui sont fortement subventionnés, ou c'est des secteurs qui concernent plusieurs pays à la fois, où il y a besoin de coopération entre les pays. Et pour l'instant, Christophe, il est vrai que c'est plutôt un dialogue de sourds entre le Royaume-Uni et l'Union européenne sur cette question de la pêche. Alors très simplement, ce qui se passe, c'est que les Européens, eux, aimeraient un statu quo complet pour l'accès aux eaux britanniques, alors que Londres voudrait une souveraineté totale avec des quotas annuels de pêche. Le problème, c'est que c'est extrêmement difficile, pour des raisons techniques, de définir des quotas de pêche pour des espèces. C'est quelque chose qui est techniquement et pratiquement difficile à mettre en œuvre. Donc, c'est un deuxième point de blocage. D'abord, les normes réglementaires. Deuxième point de blocage, la pêche. Le troisième point de blocage, Christophe, c'est l'accès aux données personnelles. En fait, le Royaume-Uni aimerait avoir accès aux données personnelles ou partager les données personnelles avec d'autres États membres de l'Union européenne, comme si ils étaient encore ou toujours, hein, ça dépend à quel moment on parle, membres de l'espace Schengen ou de l'Union européenne. Donc ça, c'est évidemment quelque chose que les Européens refusent et qui a un troisième point de blocage. Le dernier, Christophe, point de blocage, ça concerne l'Irlande et c'est plutôt, j'allais dire, une requête, une forte demande de l'Union européenne que Londres, en fait, mette en œuvre concrètement des accords qui soient durables pour garantir deux choses, hein, à la fois la paix et la protection du marché intérieur et le contrôle des produits qui arriveraient en Irlande du Nord. Donc, vous voyez, on a quatre points de blocage, Christophe. On a l'alignement réglementaire, on a la pêche, on a les données personnelles et on a l'Irlande du Nord. Donc, autant dire, on n'est pas sorti de l'auberge de ces négociations du Brexit.
La fameuse auberge espagnole, d'ailleurs. Et on sait à quel point les Anglais, ils aiment leurs fish and chips. Est-ce que si on peut se focaliser peut-être sur l'Europe, on sait qu'il y a aussi des voix discordantes à l'intérieur même de l'Europe. Est-ce qu'on sait aujourd'hui s'il y a des points qui sont vraiment points de non-retour pour certains pays? On sait que Emmanuel Macron a été très vocal sur certains points qu'il n'accepterait tout simplement pas.
Alors, c'était très vrai, Christophe, ce que vous dites il y a quelques mois lors de ces négociations de Brexit. Évidemment, là, ça l'est un peu moins. C'est-à-dire que, évidemment, il y a toujours des divergences au sein de l'Union européenne. Les dernières qui se sont fait entendre, on en a parlé lors de notre précédent épisode d'Europa Voice, c'était par rapport à l'aide, aux 750 milliards d'euros apportés par l'Union européenne. Toujours cette différence entre les pays dits frugaux, l'Autriche, les pays scandinaves et puis ceux qui ont plus souffert du Covid, Espagne, Italie, Grèce. Pour l'instant, non, c'est vrai que par rapport au Brexit, il semble que les Européens fassent confiance à Michel Barnier, au négociateur en chef européen. Alors après, ce qui est vrai, et c'est là où on verra peut-être, Christophe, comme vous le mentionnez, des points de divergence, c'est que, comme on l'avait dit encore une fois dans un précédent numéro d'Europa Voice, Boris Johnson irait amener du poids politique à ces négociations. C'est-à-dire que ne plus laisser simplement la main aux diplomates, aux négociateurs, mais que le politique s'implique dedans. Et donc, durant ce mois de juin et avant cette date butoir du 30, il va rencontrer la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, et on le sait aussi, Christophe, il y a un Conseil européen extrêmement important le 19 juin où il pourrait y avoir des fortes tensions sur ce dossier du Brexit. Donc j'allais vous dire, les tensions même au sein de l'Union européenne, c'est sûrement au moment de cette rencontre entre Boris Johnson et Ursula von der Leyen et pendant ce Conseil européen du 19 juin qu'elles se feront peut-être jour.
Alors, quid du Brexit, et c'est la transition vers le deuxième sujet aujourd'hui. La France est devenue le pays le plus attractif en Europe pour les investisseurs. Est-ce que ça, c'est lié au fait que, eh bien, d'un seul coup, la Grande-Bretagne est sortie de l'univers européen? Du coup, il a fallu redonner la médaille à quelqu'un d'autre et la France était bien placée.
Alors, Christophe, effectivement, l'information, c'est que la France, maintenant, est la destination numéro un pour les investissements étrangers. en Europe et elle devance ses deux rivaux principaux, la Grande-Bretagne d'abord et l'Allemagne. Alors, est-ce que on peut faire, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre le Brexit et la place numéro un pour la France en termes d'attractivité des investissements étrangers? J'allais dire oui, il y a un lien de cause à effet. Il est vrai que le Brexit a certainement beaucoup aidé la France à s'emparer de cette première place. Je veux juste vous donner un chiffre. Au cours des deux dernières années, quand le Royaume-Uni a perdu 40%, Christophe, 40% de ses flux d'investissements étrangers industriels, la France, elle, a vu ses flux, ces mêmes flux d'investissements étrangers industriels augmenter de 20%. Donc, si vous voulez, il y a un jeu quand même de vase communicant. Tout n'est pas expliqué par le Brexit, mais le Brexit a certainement aidé à la fois la France a monté sur la première marche du podium, cocorico, et la Grande-Bretagne, malheureusement, a dévissé au classement.
Et les Allemands dans tout ça? Parce qu'à chaque fois, on parle de l'Allemagne, et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Aujourd'hui, ce n'est pas l'Allemagne qui gagne.
Non, Christophe, alors, aujourd'hui, ce n'est pas l'Allemagne qui gagne. L'Allemagne est toujours dans les pays de tête, dans le classement de tête de ces pays-là. Alors, il faut savoir que de quoi on parle, Christophe? On parle d'un baromètre hein, qui est produit annuellement par nos amis DIY. Et donc, c'est un baromètre qui calcule l'attractivité des pays, de l'ensemble des pays européens sur des investissements hors Union européenne dans ces pays-là. Il est vrai que la France, elle s'empare de la première place cette année, Christophe, mais elle a toujours été quand même bien classée. C'est pour ça que je vous dis que le delta, il n'est pas dû simplement au Brexit. Il est dû, si vous voulez, à plusieurs choses aussi. D'abord, c'est une porte quand même d'entrée, la France privilégiée en Europe. Pour plein de pays, pour plein de raisons, pour des raisons aussi de francophonie, c'est-à-dire que vous êtes un investisseur étranger d'un pays francophone où le français est une forte langue, et ben la France est un pays de choix aussi. Hein, pour prendre l'exemple de l'Allemagne, c'est pas forcément la même hein, avec la langue allemande. La deuxième raison, Christophe, qui transpire dans ce baromètre EY, c'est aussi que en France on a quand même des infrastructures de qualité. Hein, on a un maillage territorial. À l'échelle de l'ensemble du territoire, hein, que ce soit des infrastructures de transport, des infrastructures de télécommunication, qui permet aussi à des investisseurs étrangers d'avoir une certaine confiance pour investir en France. Il y a un fort potentiel de recherche et développement, et puis il y a eu beaucoup de crédits quand même d'aide à la recherche et au développement accordés justement aux entreprises, etc. Donc, vous voyez, le Brexit est simplement une des causes, un des critères qui font que la France aujourd'hui est en bonne position pour attirer des flux d'investissements étrangers.
Oui, mais d'un autre côté, les effets comme les gilets jaunes, etc., n'ont pas affecté ce classement.
Alors, c'est une encore une fois, Christophe, et comme d'habitude, c'est une très bonne question. Oui, on aurait pu s'attendre à ce que la crise des gilets jaunes ou d'autres facteurs d'instabilité aient une conséquence sur le classement. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, si vous voulez, il y a eu tellement de signaux positifs qui ont été envoyés par les entreprises françaises aux investisseurs étrangers que ça a eu, selon ce baromètre toujours EY, très peu de conséquences en fait sur les investisseurs étrangers. Ce qui s'est passé avec le coronavirus maintenant, puisqu'on peut finalement prolonger cet effet gilet jaune et se dire est-ce que finalement le coronavirus lui aussi va pas avoir d'effet sur les investissements étrangers. Alors il y a deux éléments. D'abord, le premier élément, Christophe, c'est que heureusement ou malheureusement, le coronavirus touche tous les pays ou en tout cas un nombre important de pays européens. Donc si vous voulez, c'est tout le monde part avec ce handicap, donc c'est pas discriminant en termes d'investissements étrangers. Et le deuxième élément, Christophe, également, c'est que on cherche aussi en France, si vous voulez, la confiance, elle est aussi accordée parce que la France, justement, a été réactive dans la première partie de la crise. Alors, je ne parle pas du niveau sanitaire, hein, je parle au niveau des dirigeants, au niveau des entreprises, ce qu'elles ont fait pour maintenir l'activité, pour maintenir l'emploi, les mesures d'accompagnement. Et donc, si vous voulez, maintenant, tout l'enjeu pour la France, c'est dans cette deuxième partie post-déconfinement, eh ben, de continuer à soutenir ces entreprises et faire qu'elles donnent encore des signaux de confiance à des investisseurs étrangers pour continuer d'investir en France.
Affaire à suivre.
Affaire à suivre, Christophe.
Merci, Nathanaël.
Merci, Christophe.